20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Alésia connaît pas, je ne sais pas où se trouve Alésia. Personne ne sait où se trouve Alésia. Sous la plume de René Goscinny, la phrase issue du bouclier Arverne est devenue incontournable, tant elle est le reflet d'une polémique bien actuelle autour d'une bataille de titans, vieille de 2067 ans. De fait, Alésia serait une fille de l'air. Si certains ne la voient nulle part, d'autres la verraient partout. Il faut dire qu'Alésia constitue un enjeu, puisqu'à n'en pas douter, elle marque symboliquement l'effondrement de la Gaule libre et indépendante, la fin d'un monde qui, d'une certaine manière, fonda la France. Alésia, il faut savoir l'approcher, la découvrir, et c'est ce que nous ferons dans ce numéro du magazine d'archéologie de France Culture, avec Jean-Louis Bruno. Bonsoir.
Bonsoir.
Proto-historien, directeur de recherche au CNRS, Jean-Louis Bruno, vous publiez aujourd'hui « À la recherche d'Alésia » aux éditions Armand Collin. Jean-Louis Bruno, si vous cherchez Alésia, c'est qu'à défaut de l'avoir partout, vous ne l'auriez pas trouvé ?
C'est assez drôle ce que vous dites. C'est pas moi qui l'ai trouvé, on va suffisamment en parler je pense dans les minutes qui suivent. Non, le titre de l'ouvrage a un tout autre sens. C'est une référence évidente à Proust, à la recherche du temps perdu, et c'est le sens un petit peu de cet ouvrage qui est ce retour dans le passé, et dans le passé même le plus lointain, bien au-delà de l'événement marquant que vous avez évoqué.
Alésia, c'est un site naturel, exceptionnel. Je l'ai survolé avec un archéologue aérien, René Goguet. C'est encore Camille Julian qui, semble-t-il, en parle le mieux.
Oui, il est extrêmement poétique. Enfin, sa description est très poétique. On dirait un cirque construit pour le plaisir des géants. Les collines de l'horizon présentent les gradins. La plaine des Laumes forme l'arène. Alésia, droite au milieu, fait songer à quelque hôtel colossal. C'est une des meilleures descriptions qu'on puisse donner de ce site, qui est vraiment tout dans ce site géographique. On a l'essence d'Alésia. Il faut avoir vu Alésia, il faut l'avoir parcouru, il faut le découvrir. Parce que c'est un site effectivement naturel, absolument extraordinaire, à la confluence de trois rivières, et surtout dans un lieu qui est très important. C'est un lieu de passage très important dans la proto-histoire. C'est ce qu'on appelle le seuil de Bourgogne, qui permet de passer du bassin parisien, en quelque sorte, de la vallée de la Seine, à la vallée de la Saône, et ensuite au grand circuit Rhin-Méditerranée par la vallée du Rhône et par la vallée du Rhin. Donc c'est vraiment un lieu essentiel, et en plus ce site se prête à merveille à beaucoup de fonctions.
Des mythes ou légendes d'origine grecque auraient été à l'origine de la naissance d'Alésia. Cela paraît curieux, pourquoi Héraclès serait à l'origine d'Alésia?
Oui, alors ça c'est vraiment le mythe typique. Enfin, Héraclès c'est un personnage très intéressant parce qu'il a une fonction didactique. Enfin, c'est les histoires qu'on lui prête, parce que on l'a appris dans ces dernières décennies. Plusieurs chercheurs ont travaillé sur la question. Héraclès marque la civilisation, et partout où les Grecs ont estimé que la civilisation était naissante, ils ont donné une aventure à Héraclès dans les pays qui étaient concernés. Donc c'est le cas pour les Gaulois, enfin pour notamment Alésia, c'est le cas pour les Ibères. Donc à chaque fois qu'il est question d'Alésia dans un pays, ça montre que la civilisation, le contact avec les Grecs fonctionne. Et c'est ce que veut dire ce mythe, tout simplement.
Alésia est une métropole de toute la Celtique, nous dit Diodore de Sicile. Il y va quand même un peu fort.
Alors, Diodore de Sicile reproduit des informations qu'il a trouvées chez des auteurs beaucoup plus anciens, puisque Diodore de Sicile est plus ou moins contemporain de César. César et d'Auguste, il est un petit peu décalé. Et en fait, il reproduit essentiellement, quand il s'agit de la Gaule, Posidonios d'Apamée. Mais là, je pense plutôt qu'il se fournit chez Timée de Taormine, qui est un historien grec du IIIe siècle, qui connaissait bien la Gaule, qui connaissait bien la mythologie et la religion gauloise. Et donc, ces informations sont plutôt fiables. Et quand il dit métropole, il dit aussi estia, c'est-à-dire foyer. Il veut dire que c'est un foyer religieux. C'est surtout ce sens-là qu'il entend, je pense.
Il parle de la création de la civilisation et de la police. Il parle aussi que les Celtes tombent dans la barbarie ensuite.
Oui, alors ça, c'est une façon de raccrocher ce mythe ancien à l'histoire récente, puisqu'il s'inscrit quand même parmi les historiens qui ont à traiter des aventures de César, et notamment de ce passage très important qu'est la bataille d'Alésia. Donc il fait un petit peu une jonction en disant que l'intervention de César a été en quelque sorte rendue nécessaire par cette barbarie, mais que rien ne prouve évidemment.
Héraclès, Diodore de Sicile, cette histoire ne serait-elle pas née justement de la chute de la cité d'Alésia ?
Non, c'est ce qu'ont affirmé certains historiens qui n'ont pas beaucoup réfléchi à ce qu'ils disaient, je pense, parce que cette aventure ne parlait plus aux Romains du temps d'Auguste. Donc c'est des choses qui parlaient plutôt aux Massaliotes, aux Phocéens. D'ailleurs, c'est certainement une légende qui a été créée et transmise par les Phocéens peu de temps après la création de Marseille. Et donc elle n'avait plus guère de sens à l'époque d'Auguste.
Pour vous, les Phocéens auraient pu venir jusqu'à Alésia ?
Ah bien sûr, de toute façon, on sait qu'ils ont transporté beaucoup de matières grecques, notamment jusqu'à Vix ou jusqu'à Lavaux, près de Troyes, avec la découverte de la tombe récente. Tout ce passage se faisait par ce seuil de Bourgogne et donc par Alésia et ensuite Vix.
César nous dit « Alésia est la cité des Mandubiens ». Qui sont-ils ?
Alors les Mandubiens, c'est l'un de ces 60 peuples qu'il cite, grâce à la guerre des Gaules, qui est quand même un ouvrage extrêmement important pour la connaissance du pays et surtout de sa population et de son fonctionnement politique. On connaît une soixantaine de peuples, probablement il y en avait plus, mais lui ne cite que cela. Et les Mandubiens font partie de ces peuples. C'est certainement un petit peuple comparativement à ses voisins, ce sont les Éduins, donc les habitants du Morvan, un peuple assez nombreux avec un territoire assez grand,
très puissant,
et au nord les Lingons, donc le plateau de Langres, qui est également un peuple puissant. Donc les Mandubiens sont pris un petit peu entre ces deux peuples très importants.
Les Mandubiens, ce seraient ceux qui foulent aux pieds.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a effectivement donc cette hypothèse qui a été donnée par Pierre-Yves Lambert. Il y en a une autre qui met en rapport Mandubien avec Mandou, qui désigne le poney dans les langues dites celtiques. Donc, actuellement, on ne sait pas quelle étymologie préférée, mais c'est vrai que celle de Pierre-Yves Lambert, moi, me va bien, je dirais.
Qu'est-ce que l'on sait sur l'origine de ce peuple ? Leur origine, on va dire, entre le 5e siècle et le 3e siècle avant notre ère. Là où on ne connaît pas le nom des peuples, justement.
On en sait guère plus que pour les autres peuples. Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'il s'agissait peut-être au départ d'un pagus, puisque les grands peuples étaient divisés en plusieurs cantons, et qu'en fait, les Mandubiens étaient tout simplement un pagus qui a pris son indépendance. Donc ça, ce sont des choses qui sont arrivées. Donc certains peuples, par exemple les Sylvanectes autour de Senlis, ont eu leur indépendance à l'époque d'Auguste. Certainement qu'ils l'ont retrouvée. Donc il y a eu des changements dans la configuration politique de ces peuples pendant les 5 ou 6 siècles qui ont précédé la conquête romaine.
Jean-Louis Bruno, les historiens les ont souvent assujettis justement à la nation éduenne. Mais rien n'est moins sûr.
Non,
ce ne sont pas des clients, quoi.
Non, c'est un peu gratuit cette affirmation. Le fait que justement Vercingétorix ait choisi Alésia et donc cette cité des Mandubiens pour s'installer me semble d'ailleurs contredire un petit peu cette affirmation, parce que je pense qu'il a voulu se détacher de la tutelle éduenne. Donc si ça avait été simplement des Éduins, je crois qu'il n'aurait pas choisi ce site. Et par ailleurs, les travaux archéologiques récents, notamment je pense à la céramique, aux travaux de Monsieur Barral, etc., montrent que la céramique d'Alésia n'est pas spécialement proche de celle des Éduins. Elle montre au contraire des affinités avec la céramique belge, avec la céramique du nord-est de la Gaule, et surtout des influences d'ailleurs très variées. Donc les Mandubiens étaient un peuple qui était ouvert, pas seulement sur les Éduins, mais sur les Lingons et sur les peuples de la vallée de la Seine.
On sait bien sûr que Alésia a donné le mont Auxois, mais que voudrait dire Alésia ? On connaît l'étymologie ?
Non, pas vraiment. Donc là, il y a eu, c'est pareil, plusieurs hypothèses. On a rapproché ça du nom de l'Alise, de l'arbuste ancien, mais il n'y a pas d'hypothèse vraiment convaincante.
Alésia Gaulois, c'est avant tout un étonnant lieu de culte. Nous voici sur votre terrain de prédilection, Jean-Louis Bruno, la religion gauloise.
Oui, malheureusement, ces lieux de culte gaulois, donc qui sont prouvés, ne serait-ce que par ce que dit Diodore de Sicile, mais aussi par les nombreux lieux de culte qui se sont installés au tout début de l'époque romaine, sur le plateau du Mont Xoïs montre qu'il y avait effectivement ce terrain préalable de lieu de culte gaulois dont malheureusement il ne reste pas grand chose. Alors il y a eu quand même des découvertes qui ont été faites assez récemment sur l'un des lieux de culte les plus importants, celui d'Apollon Moritas Gos, qui se trouve à l'extrémité orientale du plateau. Donc là, on a découvert notamment un enclos de type gaulois, comme ceux qu'on connaît très très bien, de type Gournay-sur-Aronde et d'autres. Donc on a là la preuve qu'il y a eu des états antérieurs. Malheureusement, c'est le cas pour tout le plateau et pas seulement pour les sanctuaires, c'est le cas aussi pour l'habitat. On est sur un plateau calcaire et comme il y a eu une occupation gallo-romaine, ensuite mérovingienne extrêmement importante, elle a eu tendance à faire disparaître beaucoup de vestiges gaulois et il est très difficile de les faire apparaître. C'est un petit peu le malheur d'Alésia. Je dirais.
Vers 150 avant notre ère, des banquets sacrés se seraient déroulés sur le plateau d'Alésia.
Oui.
Pourquoi cette ferveur religieuse en ce site ?
Alors certainement par ce rôle géographique d'Alésia qui est au carrefour des voies dont j'ai parlé, donc de ces voies terrestres, de ces voies aussi navigables, et de sa position qui est en plus à la jonction de l'ancien domaine des Celtes, de la confédération des Celtes que nous donne César, qui est le centre sud de la France, et puis les populations septentrionales, les Belges. Donc Alésia avait une position clé en quelque sorte à ce niveau-là. Donc ça a pu expliquer justement qu'on est tenté d'y installer un centre religieux peut-être aussi important que celui appelé Locus Consecratus par César.
La fameuse réunion.
Voilà, le fameux lieu de réunion des druides qui se trouvait près de d'Orléans et Chartres, chez les Carnutes. Il y a peut-être eu un petit peu un lieu de ce type à Alésia, ça c'est tout à fait probable.
Justement, on n'a jamais retrouvé ce grand sanctuaire chez les Carnutes.
Non, malheureusement, et c'est un peu un drame, mais c'est aussi parce que nous ne sommes pas prêts à faire des découvertes de ce genre, parce que c'est un lieu d'assemblée certainement immense. Quand on travaille sur le terrain, on peut pas apprécier un lieu de cette grandeur-là, et l'échelle aérienne, puisque vous avez parlé de Monsieur Goguet, on était habitué à chercher des enclos de plus petite taille. Des enclos de 40, 50, 100 mètres. Or là, il faudrait très certainement chercher des enclos de plusieurs hectares, voire plusieurs dizaines d'hectares. Et les archéologues aériens, pour l'instant, ne sont pas encore habitués à ce type de recherche.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Alésia a-t-elle d'autres fonctions dans les années 150 avant notre ère ? 70, va-t-on dire.
Oui, bien sûr. Alésia, comme Gergovie, d'ailleurs, qui montre une certaine proximité. Hein. C'est un plateau qui a aussi été le lieu d'une bataille importante. C'est certainement un lieu d'assemblée politique. Donc, assemblée religieuse, dans le monde gaulois de ces trois ou quatre derniers siècles qui précèdent la conquête, la religion est directement reliée à la vie politique, comme à Rome. Et donc, il faut concevoir des réunions politiques sur ce lieu, peut-être un lieu de résidence aristocratique, donc des familles dominantes, hein, comme c'était le cas à Gergovie pour la famille de Vercingétorix, donc qui avait sa résidence sur le plateau. Et puis on sait notamment par des auteurs latins comme Pline le naturaliste que c'était un lieu d'industrie très important, qu'on y faisait de la forge, de la ferronnerie, et ça a été bien documenté justement par les fouilles pratiquement depuis le 16e, 17e siècle jusqu'à maintenant. On a fait énormément de découvertes sur ces activités artisanales. En sachant qu'il y avait une spécialité importante à Alésia, c'était l'étamage. Et l'étamage, c'est une opération qui est très très difficile, qui est une invention des Gaulois, qui permettait d'utiliser des récipients en cuivre, notamment pour la cuisine, en étalant sur la surface de l'étain, ce qui est une opération extrêmement difficile, qu'ils ont réussi, et qui avait aussi une autre qualité, c'est que ça faisait passer ces objets pour de l'argent. Et c'est certainement comme ça qu'il faut expliquer le fameux char en argent qu'on nous dit être celui de Luherne, par exemple.
Roi des Arvernes.
Voilà, ou de Bituite. Ce qui serait incompréhensible, un char entièrement en argent, et en fait, il était probablement déjà étamé.
Si Vercingétorix s'enferme donc dans Alésia, c'est parce que Alésia est un site très particulier, peut-être presque sur une frontière, le centre de la Gaule?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a effectivement ce que vous semblez dire, cette raison un petit peu idéologique, un petit peu religieuse, c'est-à-dire que effectivement, Alésia était un centre religieux connu certainement de toute la Gaule et notamment de tous les édiles gaulois. Donc, il parlait à tous les hommes politiques gaulois. Donc, c'était vraiment le lieu idéal pour tenter de ramener à lui les forces qui pouvaient l'aider. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, dans sa conception stratégique, Alésia jouait un rôle important puisque lui, Vercingétorix, voulait absolument s'emparer du plateau de Langres, donc la cité des Lingons, qui servait en quelque sorte de réserve logistique à César. Donc c'est là que César faisait reposer ses légions, les faisait chercher aussi des Germains qui pouvaient l'aider.
La fin de la Gaule indépendante n'est qu'une sorte de tragique histoire de trahison en tous sens. Une partie de l'armée gauloise n'a-t-elle pas regardé sans bouger la reddition de Vercingétorix?
Oui, très certainement. C'est vrai qu'il y a une question de politique. Les raisons politiques, les raisons, ce que vous appelez la trahison, sont plus importantes que les raisons militaires. Parce que, justement, ceux qui sont penchés sur ces batailles, il y a eu trois grandes batailles à Alésia, trouvent absolument incompréhensible que les Gaulois n'aient pas gagné. Et Napoléon Ier, le premier a bien montré qu'il y avait là quelque chose d'absolument incompréhensible. Aucune fortification ne peut arrêter une masse considérable d'hommes comme l'a constitué l'armée de secours, d'autant plus que c'était des Gaulois qui étaient prêts à mourir. Donc, normalement, aucune fortification ne pouvait les arrêter. Et on sait, en relisant un petit peu César entre les lignes, en quelque sorte, qu'effectivement, toute une partie de l'armée de secours, notamment les fantassins, n'ont pas participé au combat et sont même partis même avant la fin de la bataille.
C'est le plutôt Rome que Vercingétorix. Beaucoup de peuples, dont les Éduains, ont pensé cela donc dans les années 52. Certains en tireront bien sûr profit, les Éduains, les Rèmes aussi, de leur trahison, naquit Reims et peut-être avec elle le sacre des rois de France.
Ça, c'est une lointaine retombée. C'est vrai que les Éduains, les Rèmes, les Lingons ont tiré, ou même les Trévires, ont tiré un parti absolument extraordinaire de cette collaboration avec Rome. Et César leur en a su gré immédiatement, c'est-à-dire qu'il leur a facilité la vie et leur a permis d'avoir une position dominante dans la nouvelle province. Et notamment, donc, puisque vous parlez de Reims, du Rocortorum, effectivement, c'est une ville qui, au départ, c'est un oppidum gaulois, quelques fouilles l'ont montré, mais qui devient tout de suite très très importante, énorme, dans toute cette partie septentrionale de la Gaule, grâce justement à cette collaboration.
Alésia est un événement majeur dans l'Antiquité, comparable aux guerres napoléoniennes, la Grande Guerre. On évoque 300 000 morts pour une population de 2 à 3 millions d'âmes, voire plus.
Ah, pour la guerre des Gaules, c'est plus que ça. C'est pour entre 15 et 20 millions d'habitants. Pour une Gaule qui est beaucoup plus grande que la France, hein, il faut pas oublier qu'il y a la Belgique, il y a une partie de l'Allemagne, il y a la Suisse. Et là, on parle, enfin, c'est Pline le naturaliste qui lui parle d'un million 100 000 morts. Donc, effectivement, c'est absolument considérable. C'est énorme.
C'est le grand événement avant les guerres napoléoniennes.
Oui, certainement. Et ça, effectivement, les Romains ne s'y sont pas trompés. La principale reconnaissance qu'ils ont eue à César, c'est effectivement d'avoir conquis la Gaule, qui leur paraissait une chose absolument impossible. D'autant plus qu'il y avait ce contentieux terrible entre les Romains et les Gaulois, le siège de Rome et la prise de Rome, depuis Brennus, depuis 390, quelque chose qui est toujours resté en travers de la gorge des Romains. Et même César, quand il vient presque 4 siècles plus tard, il a encore dans la tête l'idée de venger ses ancêtres.
Comment sentir les mendus bien d'Alésia? Plutôt bien?
Ils sentirent plutôt bien parce qu'ils sont malgré tout, ils sont dans l'orbite à la fois des Éduains et des Lingons qui sont très bien traités par César, juste après la guerre, et parce qu'ils vont jouer un rôle très important, parce que leur oppidum leur permet certainement d'accueillir une partie des légions, parce qu'il fallait qu'elles cantonnent, qu'elles hivernent, et parce qu'il y a aussi sur place, avec ces ateliers dont on a parlé, de forgerons, de quoi réparer les armes romaines, de quoi réparer les chars, etc. Et donc, le commerce, le travail artisanal qui était très actif à Alésia se poursuit effectivement juste après la guerre des Gaules, sans aucun problème.
Évoquons la ville antique. Avant les fouilles du siège, faites bien sûr par Michel Redé, la seule chose que l'on voyait d'Alésia, c'était bien sûr cette ville romaine. On n'a quasi aucun élément gaulois.
Non, on a très très peu de choses. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les sanctuaires. Parce qu'on sait qu'effectivement, les traces d'habitat sont extrêmement ténues. Et là, il y a eu une telle activité à l'époque gallo-romaine, notamment une telle activité de construction, que toutes les traces gauloises ont presque entièrement disparu. Donc, il faudrait les rechercher avec beaucoup de minutie, ce qui n'est pas toujours facile sur un site où justement les vestiges gallo-romains sont extraordinairement bien conservés. Et on se pose toujours des questions avant de détruire des vestiges gallo-romains pour retrouver d'éventuelles traces de l'habitat gaulois.
En tout cas, Alésia, lieu de culte gallo-romain perdure. Une jeune gauloise se refusant au gouverneur Olybrius y est martyrisée puis honorée.
Alors ça, c'est l'histoire de Saint-Rène. C'est une histoire tout à fait abracadabrante, puisque les historiens de la religion, notamment, se sont rendus compte que le martyr de Saint-Rène, tel qu'il est raconté, notamment dans la légende, est exactement celui de Marine d'Antioche. C'est une copie, c'est une importation d'un martyr qui s'est produit en Asie mineure, en Pisidie. Et cet Olybrius dont vous me parlez, c'était justement le gouverneur de la Pisidie. Donc ça n'a rien à voir avec Alésia. Et c'est quelque chose qui a été adapté probablement au VIe siècle, parce qu'il y avait depuis le IVe siècle à Alésia, sur le plateau, une communauté chrétienne qui très tôt a installé ce qu'on appelle une basilique, c'est-à-dire un petit lieu de culte autour de restes d'un martyr, mais un martyr dont on avait oublié toute l'histoire. Et donc, on a importé cette histoire de Marine pour meubler, en quelque sorte. Et donc, il y a eu probablement une martyre, dont les restes existaient, de toute façon, qui était dans un sarcophage au milieu de cette basilique. Mais on ne savait plus qui elle était. On ne sait même pas si c'était une femme, d'ailleurs. Et on lui a attribué cette histoire.
Le Bellum Gallicum, c'est avant tout un texte unique qui a sa propre histoire. On l'a d'abord attribué à Suétone.
Oui, très vite, même les Romains ont perdu de vue que l'auteur était César. Donc ça s'est passé au Bas-Empire. Ce qui fait qu'au tout début du Moyen-Âge, même enfin la période mérovingienne, on ne savait plus qui était l'auteur de ce Bellum Gallicum. Donc on a pensé que c'était Suétone. Après, on a pensé que c'était un certain Celsus. Et il a fallu attendre le travail de moines mérovingiens qui ont réattribué le manuscrit à César.
C'est-à-dire que la guerre des Gaules aurait pu disparaître, hein. Comme on ne connaît rien de Posidonios, hormis de manière indirecte.
Ah oui, tout à fait. Bon, malheureusement, toute cette littérature a sombré dans la disparition. On peut estimer qu'il y a peut-être 20% de la littérature antique qu'on a récupérée. Encore, je pense que je suis peut-être optimiste. Donc, la plus grande partie a disparu avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, pour lequel malheureusement César avait quelque chose à voir, avec celle de Rome, avec celle de Pompéi aussi. Et donc, ces grandes bibliothèques, en disparaissant, ont fait disparaître aussi ces manuscrits. Donc, quelques-uns avaient été recopiés par les moines, mais ont subi aussi beaucoup de sévices.
Lou de Ferrière découvre le manuscrit donc de la guerre des Gaules dans une abbaye allemande. Le tout à peu près vers le 9e siècle. On a au 14e siècle Le Poche qui découvre, quant à lui, Cicéron. C'est absolument invraisemblable.
Oui, ce sont des véritables enquêteurs. Ce sont des personnages qui sont absolument incroyables, qui sont d'ailleurs des personnages de romans, et qui ont vraiment la passion de la recherche de ces manuscrits. Et sans eux, effectivement, on aurait perdu toute une partie de la littérature antique.
Durant toutes ces périodes, Alésia était bien sûr attribuée à Alice Saint-Rène.
Ah oui, bien sûr, la remise en question de l'identification d'Alésia avec Alice Saint-Rène est quelque chose d'extrêmement tardif. Ça n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Avant, tout le monde est parfaitement au courant que Alice et l'Alésia, même les étrangers, on a des ouvrages, notamment italiens, qui montrent bien que tout le monde pensait que c'était là. Il n'y a pas de problème.
Alors pourquoi tout le monde pense que c'est à Alice Saint-Rène? Sûrement pas par l'archéologie.
Non, pour d'autres raisons. D'abord parce que c'est une mémoire, c'est la mémoire des habitants, ce qui fait que d'abord il y a eu un passage continu, il n'y a pas eu de coupure, c'est-à-dire que après la ville gallo-romaine dont on a parlé, il y a une installation mérovingienne. Le plateau du mont Auxois sert de chef-lieu d'un pagus mérovingien, donc d'un petit canton mérovingien où on frappe monnaie. Donc et c'est ce pagus qui s'appelle Alisiensis, donc le pagus alisien, le pagus d'Alésia, qui donne son nom à la fois au mont Auxois et à la fois au pays Auxois. Donc pour les gens du cru, il était bien évident qu'Alésia, c'était chez eux.
Fin XVIIe siècle, la première remise en cause vient de Louis des Ours. Et là, nous sommes sur quelque chose d'un peu farfelu. Plus intéressant est Alexandre Delacroix, qui, lui, en 1855, commence à se baser sur l'archéologie pour supputer qu'Alésia n'est pas à Alice Sainte-Reine.
Oui, enfin bon, il se sert de découvertes, en plus dont on verra par la suite qu'elle n'avait rien à voir avec l'époque gauloise, puisque c'était à partir de sépultures de l'âge du bronze, donc il y avait un écart chronologique. Mais la raison primaire n'était pas du tout plus sérieuse que celle de monsieur de Mondageur. C'était pour une affaire de tourisme. Et d'ailleurs, les premiers textes qui ont été écrits par ce personnage, auquel s'est associé deux autres savants, Jules Quichera et Émile Ernest Desjardins, qui était un grand géographe de l'Antiquité, qui d'ailleurs est arrivé à l'Académie des sciences, c'était une affaire de tourisme. Il voulait effectivement attirer les touristes en Franche-Comté, et donc il jalousait la Bourgogne et Alésia.
Des personnalités s'en mêlent, des militaires férus bien sûr de polyurcétique, l'ars du siège, car bien sûr, eux aussi ont lu César. Le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, s'en mêle aussi, prône que Alésia est bien à Alice Sainte-Reine.
Oui, alors lui c'est plus intéressant, parce que lui c'est le grand ennemi de Napoléon Ier, et prince d'Orléans, et il est en Angleterre, et donc il doit occuper son temps, et donc il fait des recherches sur le texte de César, et puis il fait aussi des recherches à partir des cartes topographiques, des cartes d'état-major, enfin les ancêtres des cartes d'état-major, et il fait une recherche qui est tout à fait époustouflante pour cette époque-là, et il aboutit à des conclusions qui n'ont d'ailleurs pas été remises en question.
Napoléon III attaque des fouilles, bien sûr, à Alésia, des fouilles absolument remarquables, découvre quantité de vestiges, le tout est très bien publié.
Très bien publié, bon, pas avec les critères que l'on a aujourd'hui. Oui, enfin, il s'est entouré d'une armada de chercheurs, de techniciens, de fouilleurs de très très grande qualité. Et il faut dire surtout que Alésia, c'était un des points de ses recherches qui se sont étendues tout autour de la Méditerranée, sur toutes les guerres, notamment les guerres civiles de César, à Alexandrie notamment, en Grèce. Mais Alésia, c'est effectivement l'un des lieux où ses recherches sont les plus marquantes, parce qu'il y a eu un travail notamment de topographie extraordinaire.
Dans les années 60, un nouveau candidat émerge, Siam et Chaud de Crotenay, sous la plume d'Henri Berthier, qui était paléographe.
Oui, mais on se demande quelle est la raison d'avoir choisi le site qu'il choisit et qui ne répond absolument pas aux critères que César définit. C'est un site absolument immense. C'est un plateau qui ne se prête pas du tout à l'habitat, encore moins à la fortification. C'est un site qui paraît invraisemblable.
Où se trouve Siam ?
Alors Siam, c'est vraiment dans le Jura, vraiment dans un massif montagneux, et ça ne correspond pas du tout à la topographie qui nous est donnée par César du peuple des Monts du Bien.
Aujourd'hui, on aurait à peu près 40 candidats pour la véritable Alésia en France.
Oui, paraît-il.
Alors bien sûr, on connaît les fouilles de Napoléon III, on connaît moins les fouilles franco-allemandes dirigées par Michel Redé, qui mettent toujours fortifications et camps romains à Alice Sainte-Reine.
Oui, bien sûr. Alors là, leur but, c'était surtout d'une part de faire taire cette polémique qui embêtait beaucoup les autorités, notamment les autorités de la culture, et puis de préciser les choses. Et ils ont fait un travail absolument remarquable, qui est remarquable à deux égards. C'est-à-dire, d'abord, ça montre que les travaux faits à l'époque de Napoléon III étaient déjà d'une qualité absolument exceptionnelle. Donc la plupart des résultats ont été confirmés. Et évidemment, ils ont précisé beaucoup de choses parce que il y avait un certain nombre de problèmes de situation, de certains camps, etc. Des choses qui n'avaient pas pu être vues non plus à l'époque de Napoléon III, notamment les constructions en mode de gazon, des choses comme ça qui demandent une fouille extrêmement fine. Et il y a une publication qui est absolument extraordinaire.
Pourquoi, Jean-Louis Bruno, cette bataille continue-t-elle, notamment dans la presse? J'ai souvenir d'articles dans Libération n'hésitant pas à dévoiler une supercherie. Alésia n'est pas en Bourgogne, mais dans le Jura.
Oui, alors ça, c'est une curiosité française qui étonne tous nos voisins, allemands, anglais notamment, qui ne comprennent pas qu'on puisse s'écharper sur un site qui ne fait aucun problème pour personne. Et j'avoue que pour moi, c'est un mystère. Et donc, les chercheurs présentants, notamment des gens comme Christian Goudineau, nous disaient que de toute façon, cette polémique n'arrêterait pas. Donc, il ne faut pas espérer y avoir mis un terme.
Jean-Louis Bruno, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, « À la recherche d'Alésia, les légendes, des légendes grecques au lieu de mémoire », publié chez Armand Collin. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se consacrera à Jean Guilaine, proto-historien et professeur au Collège de France.